cours d'économie.
Deuxième édition, c'est jeudi de Goma Mining Briefings. L'impact des conflits et l'instabilité sur le secteur minier ainsi que les stratégies pour promouvoir la paix et la sécurité dans la région ont été examinées lors de ce forum. L'invité de l'économiste Virgile Mpeti, entrepreneur et initiatrice du salon de la marque, du fournisseur et du distributeur qui organise une formation en agro-business à l'intention des femmes de Kinshasa. Bienvenue à tous. La deuxième édition de Goma Mining Briefings s'est tenue ce jeudi à Goma sous le thème « La gouvernance des ressources minières, enjeux sécuritaires, économiques, sociaux, environnementaux et opportunités d'investissement dans l'Est de la RDC ». Il était question au cours de ce forum d'examiner l'impact des conflits et de l'instabilité sur le secteur minier et de discuter des stratégies pour promouvoir la paix et la sécurité dans la région, mais aussi de découvrir les opportunités d'investissement dans ce secteur. Denise Loukesso pour plus de détails.
L'instabilité sécuritaire et autres conflits ont impacté négativement le secteur minier au Nord Kivu, avec comme conséquence la baisse de la production et par ricochet, c'est l'économie du pays qui est touchée, ont démontré les panélistes lors de ces forums. Madame Yvette Monza, présidente provinciale de la Chambre des mines au Nord Kivu, l'une des panélistes, préconise comme solution l'imposition par le gouvernement de la restauration de l'autorité de l'État dans toutes les zones occupées par les rebelles.
C'est au gouvernement de renforcer l'autorité de l'État, de récupérer les zones qui sont passées sous contrôle rebelle pour que son autorité soit restaurée et que les opérateurs qui sont légalement établis et agréés par lui exercent maintenant leurs activités conformément à la loi et aux exigences internationales.
Et en dépit des différents défis, l'organisateur de ces forums a mis en exergue les opportunités d'investissement dans le secteur minier. Keti Amouli est la présidente de Goma Connect.
On ne va pas s'appuyer seulement sur le fait qu'on soit en insécurité pour refouler les investisseurs. Nous devons montrer au monde entier les opportunités d'investissement qu'on peut avoir dans le secteur minier de ce côté du pays.
Les participants ont formulé des recommandations et se sont engagés à appliquer les principales. Goma, Denise Loukesso, Radio Kapi.
Au Sud Kivu, les activités ont tourné au ralenti à la Direction générale des recettes administratives et domaniales des GERAD. C'est jeudi, les bureaux sont restés fermés et les agents ont été regroupés dehors avec des sifflets pour alerter, ont-ils dit, l'autorité politique et judiciaire de la province. Ces agents disent réclamer la libération sans condition du receveur de la DGRA Sud Kivu, arrêté et puis déféré à la prison centrale de Bukavu par les instances judiciaires. Les manifestants déclarent que leur collègue serait arrêté injustement alors qu'il était en plein exercice de ses fonctions devant une maison de commerce appartenant à un expatrié à Bukavu. Un des agents contactés sur les lieux des manifestations déclare ceci.
Le receveur de la DGRA Sud Kivu, il a déclenché la procédure de recouvrement contraint vis-à-vis d'un expatrié qui résistait au paiement des droits de l'État mis correctement et légalement à sa charge. On a scellé ses installations. Lui-même se permettra de briser les scellés apposés par la DGRAD. La DGRAD s'est allée une fois de plus apposer les scellés. L'expatrié en question est allé se plaindre auprès de la justice. Fort malheureusement, la justice appelée à défendre le receveur dans l'exercice de ses fonctions, c'est le contraire que nous avons observé. Il y a une procédure qu'on appelle un recouvrement contraint. Et c'est ce qui a été fait correctement et légalement. Fort malheureusement, nous constatons que le receveur d'Azécide Kivu est en prison depuis hier. Alors nous exigeons sa libération sans condition et immédiate.
Nos efforts pour avoir la version des autorités judiciaires de la province du Sud Kivu n'ont pas abouti. Interruption du trafic ferroviaire sur les axes Kalemie-Kindu et Lubumbashi depuis janvier dernier. Plusieurs marchandises traînent dans les entrepôts de la SNCC à Kalemie. Les opérateurs économiques de la province du Maniema regrettent que plus de 80 wagons chargés de leurs marchandises soient bloqués dans les entrepôts de la SNCC à Kalemie. Pierre Waswalila Ntongue, chef de la direction provinciale de la FEC Maniema, est au téléphone de Paul Munanga.
La réunion que nous venons d'avoir avec les opérateurs économiques tout à l'heure là, ils ont affirmé qu'il y a plus de 80 wagons de marchandises qui traînent encore au niveau de Calémie dans les entrepôts de la SNCC. Et il y a des marchandises périssables telles que la farine, des marchandises telles que le sel, parce que aujourd'hui la ville de Calémie est secouée par les inondations. On est inquiet, on se pose la question, est-ce que ces marchandises ne seront pas touchées par ces inondations? Et quand nous posons la question à la SNCC, pourquoi ces marchandises traînent encore, ils avancent maintenant aujourd'hui les motifs de l'effondrement des ponts à Luizy. Mais nous dirons que c'est la mauvaise foi, parce que les ponts s'est effondré au mois de janvier. Mais parmi ces marchandises-là, il y a des marchandises qui ont totalisé une année et plus. Ce que nous demandons au gouvernement central et à la SNCC d'intervenir urgentement pour réhabiliter les ponts qui s'est effondrés, afin que toutes ces marchandises soient acheminées à Kindu. Parce qu'aujourd'hui, nous vous dirons que la ville de Kindu est asphyxiée, parce qu'il n'y a pas de route. La seule voie qui nous reste ici, c'est la voie aérienne. Vous imaginez les coûts que ces marchandises doivent être vendues à Kindu.
Écho d'économie.
Notre invitée, c'est Virgile Petit, entrepreneur et initiatrice du salon de la marque, du fournisseur et du distributeur. Virgile Petit, bonjour.
Bonjour, madame Jocelyne.
C'est toujours un plaisir de vous recevoir dans ce studio. La dernière fois, c'était au mois de novembre pour parler de la première édition du salon de la marque, du fournisseur et du distributeur. Et aujourd'hui, vous revenez pour parler du lancement de la formation de 50 femmes en agro-business. C'est une activité qui vient en marge de la deuxième édition de ce salon. Parlez-nous-en.
Le salon a trois volets qui sont la formation, la conférence et l'exposition. Oui. Et pour la formation, nous voulons optimiser et créer un impact positif dans la société en formant 50 femmes en agrobusiness durant tout le mois de juin. Et le lancement est prévu pour ce samedi 18 mai à la Perle de Sainte-Anne.
Et pourquoi seulement les femmes?
Pourquoi les femmes? Parce qu'il a été démontré depuis plusieurs années que les femmes ont un impact positif dans la société et elles ont des besoins spéciaux et nous les avons étudiés et avons travaillé sur des solutions courageuses.
Mais l'agriculture, ça intéresse aussi et surtout les hommes.
Oui, ça intéresse beaucoup les hommes, mais comme je vous l'ai dit, il a été connu que les femmes au fait sont nourricières et que derrière une femme, nous avons 10 personnes. Tout au plus. Okay. Et investir dans la femme a toujours été une très bonne idée. Investir dans la femme, c'est investir pour un futur sûr. Donc nous donnons la chance, nous permettons aux femmes de pouvoir aujourd'hui avoir des outils nécessaires entrepreneuriaux et des outils en agro-business, des connaissances importantes pour leur permettre de grandir et de pouvoir développer des business à succès dans l'avenir.
Alors, le salon du fournisseur, la formation des agripreneurs, quelle est la stratégie qui se cache derrière tout ça?
Nous voulons contribuer à la construction de la souveraineté alimentaire de proximité et améliorer l'impact carbone de l'alimentation.
C'est-à-dire?
Aujourd'hui, il y a une vraie réalité, c'est que nous courons vers un déficit alimentaire. Et les objectifs au fait de développement durable sont d'abord d'investir dans la femme et aussi les objectifs de 2050, c'est de pouvoir investir dans l'agriculture de manière optimale en Afrique. Et en parallèle, il y a un grand problème de pollution, un grand problème de réchauffement climatique. Il faudrait que cet accompagnement de développement en agro-business puisse respecter les normes de pollution. Donc produire, oui, en grande quantité, oui, mais en respectant la planète et en respectant l'impact carbone.
Et quand vous parlez de l'agro-business, il y a des spécificités. Est-ce qu'il y a des sous-secteurs qui sont ciblés?
Pour cette formation, nous brossons plusieurs secteurs. Notons que la formation, elle a trois modules. Des modules qui sont purement techniques, purement théoriques et aussi il y a une véritable immersion. Nous parlerons de tout ce qui est produits dérivés manioc, de l'aviculture. Nous parlerons aussi de la transformation de la viande. Donc, il y a plusieurs rubriques qui seront brossées. Notant que l'agro-business, c'est le principe, c'est tout ce qui est production, commercialisation, transformation des produits agricoles.
Et qui vont dispenser, si on va dire, le cours?
Alors, pour dispenser les cours, nous avons plusieurs partenaires. Mmh. Vous me permettez de les dire
rapidement,
Nous avons des banques qui sont partenaires, qui accompagnent dans la formation et aussi l'orientation dans les financements. C'est très important, l'orientation, parce qu'on peut avoir une très bonne idée, mais lorsque vous ne savez pas faire un business plan, vous ne savez pas faire des planifications dans le court ou moyen ou long terme, vous n'allez pas avoir une banque ou toute autre institution ou encore un business angel qui puisse vous suivre dans votre projet. Nous avons aussi notre partenaire de différents partenaires de la première édition qui reviennent, les cellulaires. Nous avons aussi des centres de formation comme l'INPP qui nous avait accompagné à la première édition. Et ensuite nous avons la Fondation Entreprendre qui œuvre depuis plusieurs années en RDC, qui est vendeur d'intelligence et qui encadre les entrepreneurs dans différentes formations. Mmh. Nous avons des industriels, des entrepreneurs locaux qui se développent dans l'agro-business, qui sont entre autres formateurs et aussi mentors. Mmh. Parce que faut noter qu'après la formation, le but c'est que ces dames puissent être capables de monter des projets viables et surtout bancables. Et en parallèle, elles ont un suivi, elles auront la capacité de pouvoir être en contact avec des entrepreneurs locaux qui ont déjà réussi ou qui sont en train d'évoluer dans le secteur d'agrobusiness pour pouvoir leur permettre de cheminer et d'atteindre leurs objectifs.
Virginie Petit, merci.
Je vous remercie, Madame Moussao, pour l'invitation.
Ainsi s'achève Écho d'économie de ce soir. Debs Vita était à la prise de son, Billy Landry-Bettou et Hervé Vauquin à la mise en onde. Merci de nous avoir suivis.